toute personne a le droit à l'autonomie physique, à un accès libre, informé, complet et universel, aux droits sexuels et génésiques, et à tous les services de santé connexes, sans discrimination, y compris à un avortement sûr et légal. C'est la proposition de modification de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le 11 avril, les eurodéputés ont voté en faveur de ce texte. Mais rien n'est acquis, voire on est encore loin du compte, car pour inclure le droit à l'IVG dans cette charte, il faudrait l'unanimité des États membres. Vous écoutez Penser les luttes, moi c'est Marie de Radio Parleur, et nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes.
Bien sûr que c'est difficile, et que je vous rassure, on aura bien la grève SNCF à Noël, on aura bien tout ça, comme d'hab, on aura tous les trucs qui sont relous en fin d'année.
Si ces conditions ne sont pas au rendez-vous, oui, il pourrait y avoir des grèves.
Pensez les luttes avec Radio Parleur.
Pourquoi vous faites grève? Parce qu'on joue notre pote tous les jours. Parce que nous n'avons assez de ce mépris de classe. Et parce qu'on demande notre dû.
C'est ça mes camarades.
Pensez les luttes, votre podcast mensuel de Radio Parleur pour vivre ensemble les mouvements sociaux.
Auditeurs, auditrices, vous entendrez dans cet épisode des extraits d'une interview de Chantal Birman, ancienne militante du MLAC, le mouvement créé en 1973 pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception. Sur ce sujet, nous vous conseillons le film Annie Colère, réalisé par Blandine Lenoir, qui retrace l'histoire des militantes et militants qui s'organisaient pour pratiquer ces avortements encore illégaux à l'époque. Dans cet épisode, nous recevons Anaïs Perrin-Prével, directrice de l'association À Outrance, et Bénédicte Paoli, membre du bureau confédéral du planning familial. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation.
Comment vous allez?
Jusqu'à là, ça va. Il y avait du café, hein. Tout va bien.
Voilà.
Dans cet épisode, nous reviendrons sur l'accès à l'IVG pour les personnes disposant d'un utérus, nous reviendrons sur l'histoire de la légalisation de l'avortement et plus généralement sur le choix de faire famille ou non. Chers auditeuristes, c'est grâce à vous que Radio Parleur peut continuer d'exister et vous pouvez faire un don sur radioparleur.net/soutenir pour que l'aventure se poursuive.
Un contenu Radio Parleur. Retrouvez nos émissions, entretiens et reportages sur votre plateforme préférée de podcast.
Penser les luttes, ça commence maintenant avec un extrait de l'interview de Chantal Birman, ancienne militante du MLAC et sage-femme.
À partir du moment où il y a une détermination et une solidarité parmi les femmes extrêmes, tout est possible. Voilà, cette sororité-là a été très particulière à l'intérieur de l'histoire des femmes. Voilà, sûrement qu'il y en a eu d'autres, mais celle-là, pour l'avoir vécue, était très, 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 très forte. Par ailleurs, on sentait à l'époque que s'il nous arrivait quelque chose, quand même, il y avait tout un mouvement derrière qui allait soutenir. On n'était pas toutes seules. Voilà, dans l'air, les choses étaient solidaires par rapport à soi. On était extrêmement déterminés par rapport à la mort des femmes. Toutes. Celles qui pratiquaient beaucoup, celles qui pratiquaient moins, etc. On était toutes très, très solidaires de ça.
Anaïs, je vois que vous réalisez. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de cet extrait?
En fait, je me disais que les luttes qu'il y a pu y avoir dans les années 70 sur les questions d'IVG, se retrouvent aujourd'hui sur les luttes qu'on peut avoir aussi sur les enjeux de transidentité et ce besoin d'avoir une solidarité intersectionnelle, de pouvoir se dire on va avoir des gens qui vont nous soutenir ou qui nous soutiennent activement et aussi de la même façon une grosse motivation et cet enjeu aussi de s'assurer de l'autre, que l'autre va bien, que l'autre comme nous va bien. Et de tout faire pour que l'autre comme nous puisse aller mieux encore. Donc je me retrouve pas mal finalement. C'est pour ça que je crois que j'ai un peu réagi en entendant ce sonore.
Donc dans l'article 34 de la constitutionnalisation de l'IVG, ça parle de liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'avortement, comme je le disais précédemment. Ça a un petit peu posé question, mais le Conseil d'État a expliqué que cela devait être étendu à toute personne débutant une grossesse. Qu'en est-il réellement, Bénédicte Paoli?
Alors, je pense qu'Adaïs, elle est plus experte en la matière. Hein. Le Conseil d'État a dit toute personne, quel que soit son état civil. Voilà. Bon. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un texte de compromis qui a été voté. Hein. Évidemment que nous, au planning familial, on n'était pas pour cette formulation au départ. Hein. On était pour la première formulation qui avait été déposée par Mélanie Vogel et Mathilde Panot. Après, nous, on a travaillé beaucoup avec les parlementaires, les associations, pour que l'IVG rentre dans la Constitution. Et c'est un texte de compromis, voilà. Évidemment, pour nous, toute personne qui a une grossesse non désirée a le droit d'avorter. Enfin, ça se pose même pas. Enfin, pour nous, ça se pose pas. Hein. C'est évident, quoi. Après, Anaïs, peut-être que toi, tu as un avis de juriste, plus expert là-dessus. Est-ce que réellement, ce qui a été dit pendant les débats parlementaires, toute personne, quel que soit son état civil, a le droit d'interrompre une grossesse?
En fait, l'intérêt, c'est que là, maintenant, c'est le Conseil d'État. C'est un avis du Conseil d'État qui le dit. Et donc, à partir du moment où c'est rentré dans la Constitution, on pourra utiliser cet avis du Conseil d'État pour opposer l'application de cette liberté, non pas de ce droit, malheureusement, pour les personnes transmasculines. Là où ça nous pose plein d'enjeux, c'est que, du coup, ça donne l'impression que, finalement, un homme trans sera jamais complètement reconnu comme un homme, parce que même si l'état civil est changé, il va encore dépendre d'un texte qui va parler de la femme. Et puis, par extension, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire que la loi actuelle sur l'IVG, enfin, avant la constitutionnalisation, parle aussi de la femme dans cette loi-là. Donc, on a déjà à peu près la même structuration qui existe. Et avec cet enjeu de se dire, bah oui, mais un homme trans qui a besoin d'interrompre une grossesse peut le faire aujourd'hui. Et dans les faits, il y a toujours cette possibilité de le faire parce qu'on va faire primer la personne par rapport à la lettre absolue de la loi. Par contre, ça ouvre plein de choses autour de ça. Le premier élément qu'il y a, c'est que ce terme de femme tel qu'il a été rajouté, la justification qui a été donnée, qui d'ailleurs est reprise par le Conseil d'État, c'est dire oui, mais c'est pour bien s'assurer que c'est cette personne-là et pas quelqu'un d'autre qui va faire valoir sa liberté d'interrompre volontairement une grossesse. Et donc, en gros, c'est de dire c'est bien la grossesse de cette personne-là qui est en question. Et en disant la femme, on a l'impression que tout est réglé. Mais ça veut dire que, un, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des femmes trans, parce que finalement, le problème qui aurait été à ne pas mettre la femme, c'est qu'on pourrait dire que dans un couple, l'homme pourrait demander à ce que l'IVG soit fait sur la femme du couple. Là, en l'espèce, il peut y avoir une femme trans qui sera la femme aussi, et qui pourrait être exactement la même situation, de pouvoir demander si c'est réellement ça qu'il fallait prévenir en tout cas. Donc on est vraiment dans cet enjeu-là de... Encore une fois, on a oublié que les personnes trans existaient. On a oublié que la loi de 2016 qui permet aux personnes trans de changer leur état civil sans avoir d'opération génitale, sans être stérilisées comme c'était le cas jusqu'en 2016 en France, malheureusement à cause des tribunaux. Et d'ailleurs, il faudra qu'un jour on demande réparation sur ce point-là sans attendre 40 ans pour les questions d'homosexualité, comme ça a été le cas pour les questions d'homosexualité. Mais il faut qu'on arrive sur cette loi-là qui est sur les personnes concernées, en l'occurrence, on oublie les hommes trans, et sur les personnes par extension, en l'occurrence on oublie les femmes trans, on a complètement oublié que les personnes trans pouvaient exister dans la société. Alors après, comme nous on aime bien prendre aussi le contre-pied des choses, ça peut ouvrir autre chose, parce qu'aujourd'hui ce problème qu'on peut avoir avec le fait que le genre revienne dans le droit, parce que l'histoire du droit français sur les 100 dernières années, c'est de retirer le genre du droit. De retirer au fur et à mesure, à chaque fois, que c'était un droit pour un homme par rapport à un droit pour une femme, etc. C'est comme ça qu'on a réussi, au fur et à mesure, à éviter d'avoir des textes de loi qui soient excluant des femmes, parce qu'à chaque fois qu'on précise, c'est toujours au détriment des femmes. Et là, il se retrouve qu'il y a eu coup sur coup deux textes de loi qui ont nommé la femme, à ce qu'il y a un retour en arrière par rapport à ça. Ça a été donc ce texte sur l'IVG, et avant, le texte sur la PMA, la PMA dite pour toutes, qui prévoit la PMA pour toutes les femmes, quelle que soit leur situation maritale, mais qui ne prévoit pas la PMA du coup pour les hommes. Et donc les hommes trans ont cet enjeu-là de PMA qui semblerait compliqué, mais on peut utiliser finalement ce que dit le Conseil d'État en disant il faut entendre le terme femme dès lors qu'on est sur un enjeu assez large autour de l'obstétrique comme étant toute personne qui a débuté une grossesse pour le cas de l'IVG. On peut imaginer que toute personne qui peut débuter une grossesse peut être considérée comme femme aux yeux de la loi quand les textes concernent cet aspect-là. Et donc, de fait, cet avis du Conseil d'État ouvre la PMA pour les hommes trans, et là on espère que ça sera suivi des faits.
Justement, dans un communiqué d'SOS Homophobie, vous dites « on espère que ça garantira l'accès au droit ». Pour vous, ce n'est pas quelque chose qui est garanti?
C'est jamais complètement garanti, parce qu'une loi, c'est intéressant quand c'est clair. Quand c'est clair, il n'y a pas d'interprétation qui est possible, et c'est ce qui permet d'avoir les choses les plus applicables quand il n'y a pas... il n'y a pas de doute sur l'interprétation qui peut être donnée. Je ne vais pas reprendre quand c'est flou, il y a un loup, mais on est sur un petit peu sur cet enjeu-là et la formulation qu'il peut y avoir sur le texte sur l'IVG, et c'est pour ça aussi que plusieurs associations se sont battues à juste titre sur la question de la liberté par rapport au droit, de protéger un droit à l'IVG par rapport à une liberté à recourir à l'IVG. C'est aussi que dans la même décision du Conseil d'État, le Conseil d'État dit mais en fait, c'est la même chose aujourd'hui au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Sous-entendu, demain, le Conseil constitutionnel change sa jurisprudence et considère qu'une liberté, c'est inférieur à un droit. Et dès lors, ce qu'il pensait au moment du vote mettre au même niveau une liberté et un droit, bah de fait, ça ne sera plus au même niveau, mais pas par une modification constitutionnelle, simplement par une jurisprudence du Conseil constitutionnel. On l'a vu aux États-Unis avec la Cour suprême qui est un équivalent, un des équivalents, le Conseil constitutionnel en est un des équivalents, qu'il a suffi d'une jurisprudence pour renverser complètement la table. Et donc, on peut imaginer que demain, la table soit renversée exactement de la même façon.
Courant 2024, il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes transgenres qui doit être publié. Est-ce que vous savez si l'IVG sera abordé dans celui-ci, Anaïs Perrin-Prével?
Alors, on espère que ce soit d'ici fin 2024. J'ai un peu peur que ce soit plutôt début 2025. Et ce ne sera pas un rapport, ce sera des recommandations. Ce sont des recommandations. Et ce qui est essentiel, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien pour la prise en charge des personnes trans. Sauf que la Haute Autorité de Santé travaille par rapport à une feuille de route. Et la feuille de route est très claire sur le cadre et ne prévoit pas tous les cadres qui peuvent être liés à la parentalité des personnes trans au sens large, parce qu'il y a les questions de l'IVG, il y a les questions de la PMA, il y a toutes ces questions-là qui pourraient être prises en compte, mais qui ne sont pas incluses dans l'ensemble. Après, on essaye de faire le travail au sein de la Haute Autorité de Santé pour qu'il puisse y avoir, au-delà de la liste de courses initiale, des recommandations un petit peu plus larges en disant il faut aussi réfléchir de façon plus globale à la prise en charge des personnes trans pour des questions de santé qui n'ont rien à voir directement avec leur transition, c'est-à-dire en dehors strictement de la prise d'hormones et des opérations, etc. De se dire, il y a des enjeux de santé qui sont propres aux personnes trans et il faut faire des adaptations pour que la santé en droit commun puisse être inclusive des personnes trans.
Dans une interview pour France Info, vous dites d'ailleurs qu'en Ile-de-France, sur 10 000 médecins généralistes en activité, il y en a une trentaine qui prennent en charge les personnes trans.
Qui prennent en charge les personnes trans pour engager des transitions hormonales. Malheureusement, on est dans une situation où il n'y a pas de formation initiale des médecins, il n'y a pas de cadre réglementaire pour la prise en charge des personnes trans, donc les médecins flippent de savoir comment faire. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les hormones que prennent les personnes trans pour les personnes trans. Donc en fait, on est dans une sorte de grand flou et les seules personnes qui acceptent de s'engager sont les personnes qui sont suffisamment militantes. C'est pour ça que les associations de personnes trans, que nous sommes nous, trans, avec AccepCST, l'Espace Santé Trans et le FLIRT au sein du réseau de santé trans, qui est une grosse association qui rassemble plusieurs associations de personnes trans et des professionnels de santé, ont fait des formations à la prescription d'hormones, ce qui a fait qu'on est passé peut-être de 5 à une trentaine maintenant, peut-être 40, mais et encore, je ne suis même pas certaine, sur les 10 000 qui sont en activité selon le site Amélie en Ile-de-France. Et avec le planning familial, justement, avec la Confédération du planning familial, on a lancé des formations des médecins du planning familial pour qu'un petit peu partout en France, il puisse y avoir des médecins formés à l'initiation hormonale.
Comment ça se passe justement, ça, Bénédicte Paoli, au sein du planning familial?
Au sein du planning familial, c'est très, très hétérogène, hein, c'est-à-dire qu'on a 80 associations départementales. Il y a des associations départementales qui sont pas de centre de santé sexuelle, donc c'est des orientations. Et puis il y a des associations qui sont centres de santé sexuelle. Ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve en fait. Il y a des régions, il n'y a pas d'association LGBT. Donc c'est un planning familial qui est une association généraliste, hein, autour de la santé sexuelle et des violences. Et un lieu d'accueil, hein, voilà. Et puis il y a des endroits comme Paris par exemple, où là il y a des associations LGBT qui sont quand même très actives, et où on a plus un travail on accueille toutes les personnes, mais aussi on a des relais, on a des réseaux, on renvoie sur des associations communautaires, hein, qui peuvent prendre en charge les personnes. Donc ça dépend vraiment, vraiment des endroits où on se trouve et des moyens qu'il y a sur le département ou sur la région, quoi.
C'est un travail de coordination, du coup, davantage dans les grandes villes, c'est ça?
En tout cas, là où il y a un tissu associatif important, c'est important de travailler en réseau. De renvoyer, de se parler, de travailler ensemble.
typiquement, ce travail de formation a été fait dans certains plannings familiaux où il y a, et d'ailleurs, on a des gens parfois qui arrivent sur Paris et qui disent, bah, je ne comprends pas, moi, mes hormones, je les avais au planning familial, donc le premier endroit où je vais aller, c'est au planning familial, parce que pour moi, c'est à cet endroit-là que je vais le faire. Sauf que bah, ce qui se passait dans un planning familial en région où il y avait un médecin ou une médecin qui était formée sur ces enjeux-là, ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Et à Paris, alors maintenant, il y a des formations qui ont pu être faites, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est aussi cet enjeu, et c'est là où la Confédération est intéressante, c'est que c'est cet enjeu d'offrir la possibilité aux plannings qui n'ont pas forcément de réseau associatif de pouvoir se mettre dans un réseau national qui est le réseau de santé trans et d'avoir des médecins qui puissent se dire bah, moi je peux m'engager aussi sur l'accompagnement des personnes trans au sein bah, finalement d'une entité qui est plutôt ouverte sur nos enjeux. En tout cas, on l'a vu avec l'engagement très fort du planning, entre autres, il y a un an et demi maintenant, ou presque deux ans, avec l'affiche qui présentait un homme enceint et avec toutes les attaques qu'il y a pu y avoir contre cette affiche, et le planning a tenu bon, et merci encore.
Mais en fait, ce qu'on essaie, nous, c'est d'avoir les réseaux les plus larges possibles, hein. C'est-à-dire que ce soit associatif, médecins libéraux, soignants libéraux, enfin pour tous les sujets d'ailleurs, hein, même sur l'IVG, on peut pas accueillir toutes les personnes qui sont en demande d'IVG par exemple, et du coup on a des réseaux libéraux, associatifs, voilà. En fait, il faut que l'offre soit la plus accessible possible, la plus simple possible, c'est ça qu'on essaie de faire.
Merci, je vous propose d'écouter un nouveau son de Chantal Birmont, ancienne militante du MLAC.
De voir arriver une sage-femme qui n'est pas médecin, c'est la première fois où il y a un non-médecin qui va opérer, c'est-à-dire qui va être en place et lieu du chirurgien. C'est pas simple pour les médecins, hein. Ça va être dur et je pense que les sages-femmes vont le payer longtemps, durement. Eh bien, c'est une marche de plus pour protéger les femmes de cet acte. Parce que les médecins dont j'ai parlé, militants, bienveillants avec les femmes, sont en train de partir à la retraite. Les gynécologues obstétriciens, ils ont plein d'autres choses qui les valorisent le plus. C'est pas la plupart d'entre eux, je n'ai pas dit tous, hein, comprenez bien, hein, la plupart d'entre eux ne sont pas valorisés par le fait de faire des avortements. Voilà. D'emblée, ce n'est pas trop leur histoire, ils ne sont pas mis dans cette histoire-là et ils n'ont pas d'affinité profonde autour de cet acte-là. Je répète, pas tous, hein, y en a qui ont bien compris à quel point c'était essentiel. Voilà. Et donc, ces médecins partant à la retraite, il était important de varier le nombre d'opérateurs et qu'il y ait ce métier, qui est le métier de sage-femme, qui est sans doute le métier le plus proche de la femme qui puisse être exister, qui puisse prendre en main à nouveau cet acte. Pour une sage-femme, faire des avortements sur le plan chirurgical, c'est plutôt facile. Ça ne fait pas partie des actes les plus difficiles qui lui sont demandés dans sa compétence.
Bénédicte Paoli, c'est quoi pour vous le soin idéal attendu pour l'IVG ?
Alors, bon, là, c'est Chantal Birmont. On l'a entendu au début. Et en fait, là où elle parlait du MLAC, hein, enfin, on la connaît bien, Chantal Birmont. Ouais. Pour nous, au planning, ce qui est vrai, ce qui est important, c'est le collectif, quoi. C'est ce que tu disais, Anaïs, tout à l'heure. Et ça, je ne sais pas si vous avez vu le film Annie Colère. Voilà. Là, on voit bien que le collectif, il est tellement important pour les personnes. Alors, avec la légalisation de l'avortement, c'est génial. Mais on a perdu un peu ce collectif, hein, ce côté collectif. Nous, au planning, on essaye vraiment. C'est vraiment notre volonté, c'est de garder ce côté collectif, c'est-à-dire qu'on fait des accueils collectifs, hein, des personnes qui viennent avorter, hein. Et puis on essaye de trouver des parcours simples, démédicaliser le plus possible. Voilà, c'est ça, nous, notre objectif. L'IVG, c'est un soin comme un autre. C'est une femme sur trois qui avorte dans sa vie. Ça fait partie de la santé sexuelle, donc on en fait quelque chose d'abord de collectif, parce que les femmes, malgré tout, c'est encore tabou, elles n'osent pas en parler, voilà, elles n'osent pas en parler, malgré tout, alors que pourtant ça arrive à beaucoup de personnes. Et ces temps d'échange collectif, ça permet de lever le tabou, ça permet de voir que bah, finalement, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même âge, mais on a les mêmes... Là, on se retrouve devant le même problème d'une grossesse non désirée. Ça permet un soutien, ça permet une solidarité. Voilà, nous, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place et en valeur, c'est le collectif. Alors souvent, les personnes, quand elles arrivent et qu'on leur dit, bah, voilà, ça va être un accueil collectif... bon, c'est pas quelque chose de très habituel, hein, l'accueil collectif. Donc, et puis finalement, on s'aperçoit que bah, c'est super, parce que c'est là où on peut écouter les autres, ça fait résonance. Finalement, on ose parler. Les violences, ben, on en parle aussi, puisqu'on est en collectif et que ben, les autres personnes en face de nous, elles ont subi les mêmes choses, même si on n'est pas du même milieu, même si on n'a pas le même âge. Voilà, il y a une sorte de transmission. Donc, nous, c'est vraiment important. Alors, on peut parler d'adelphité, hein, collectif, simplification du parcours. Pour nous, c'est important que les personnes qui veulent interrompre une grossesse, elles le fassent en un seul rendez-vous et pas en 3-4 rendez-vous, comme malheureusement, c'est encore le cas dans plein d'endroits. Voilà. Et la démédicalisation, pour nous, c'est important parce qu'en fait, quand on est une personne qui a avorté, on est experte aussi dans ce que c'est un avortement, quoi. Et du coup, dans les groupes, ça permet aux personnes qui ont avorté de parler de leur avortement, alors que souvent, elles n'en ont jamais parlé avant. Elles viennent pour un deuxième, troisième avortement. Et puis, elles peuvent répondre aux questions des femmes qui voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu mal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, c'est important d'avoir aussi un partage d'expérience.
J'allais y venir justement parce que pendant les mobilisations donc pour l'avortement libre, donc en 1973-1974, donc ça c'est selon Lucille Ruault qui est chercheuse au CNRS, il y a eu un peu justement des critiques de cette démédicalisation de l'IVG.
Bah parce que c'est une expérience commune, hein. C'est pas voilà, c'est une expérience qu'il faut partager. En effet, on n'est pas contre les sages-femmes et les médecins, hein, loin de là, hein, puisqu'on en a dans nos centres et qu'on travaille avec. Et là, les accueils collectifs, on les fait avec des soignants aussi. Hein, donc, mais les soignants qui se mettent à un niveau moins médical, hein, parce qu'en fait, l'expertise, elle est partagée par tout le monde, quoi. Enfin, on est un mouvement d'éducation populaire, hein, c'est pas pour rien. Et on peut avoir des compétences dans des domaines. Hein. En l'occurrence, un médecin, il a des compétences dans le domaine médical, il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui avortent, elles ont d'autres compétences. Hein. Et puis, quand elles ont avorté, elles ont aussi la compétence de savoir ce que c'est l'expérience d'avorter.
En fait, on laisse entendre que ce serait une exception, ce serait que des personnes extraordinaires qui le font. Qui le font et qui le font comme ça. Je parle aux soignants qui écoutent, qui ne se positionnent pas exclusivement en sachant ou en sachante. Alors que théoriquement, c'est comme ça que tous les soignants et toutes les soignantes devraient se positionner. Et nous, on a vraiment les mêmes enjeux, avec un décalage dans le temps, mais on a strictement les mêmes enjeux d'une médicalisation extrêmement forte. On essaie de sortir de cette médicalisation. Alors en plus, il y avait un enjeu de psychiatrisation des transidentités qui reste encore très très présent dans la tête de pas mal de personnes et pas seulement des sénatrices LR. Mais en tout cas, on est dans cette logique-là et on a travaillé avec l'université Lyon 2 sur un projet qui s'appelle Forest, de santé sexuelle pour les personnes transmasculines. Et en parallèle de cette étude sur les personnes transmasculines, sur les questions de santé sexuelle, on a aussi interrogé des médecins, des praticiens et praticiennes qui, aujourd'hui, prennent en charge des personnes trans alors qu'il n'y a pas de cadre, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, pourquoi ces personnes-là le font? Et ces personnes-là réagissent en disant que, bah, finalement, parce que c'est ce qu'on leur demande de faire dans la médecine, c'est-à-dire d'écouter l'autre, de s'assurer que l'autre va bien, et de ne pas se positionner en sachant ou en sachante absolue, mais d'apprendre énormément. Et ce que disent toutes les personnes qui aujourd'hui interviennent dans le soin, c'est mais nous, on a appris des patientes et des patients trans qui sont venus nous voir parce qu'on ne l'a pas appris dans nos formations initiales, on ne l'a pas appris non plus dans les formations continues, donc il y a des formations qu'on peut faire dessus, mais y compris là, sur ce sujet-là, entre autres, mais c'est pour ça que ça rejoint beaucoup ce dont on parlait, mais on a les sachants et les sachantes sont les personnes concernées les premières. Et il n'y a pas que sur ce sujet-là, c'est un élément qui devrait être valable partout, parce que ça permettrait aussi d'entendre comment la personne vit, la raison pour laquelle le rendez-vous médical est là. Comment la personne vit, et on part normalement en médecine d'une anamnèse qui doit regarder les choses de façon très globale, c'est-à-dire de regarder l'ensemble du contexte. Est-ce que la personne est seule? Est-ce que la personne est soutenue? Est-ce que la personne a d'autres enjeux autour? Parce que c'est essentiel, tous ces points-là. Et c'est aussi pour ça que, de la même façon, les groupes de parole que l'on peut organiser en tant qu'association trans, et plusieurs associations trans le font, permet à des personnes qui se sentent extrêmement isolées sur ces enjeux-là de se dire « Ah ben, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Il y a d'autres personnes qui se sont posées les mêmes questions que moi. » Donc, peut-être pas en arrivant en posant les questions, mais peut-être en entendant d'autres personnes poser des choses, poser des mots, et de comprendre des choses par la voix des autres, de dire « Ah ben, finalement, on vit la même chose. » Et effectivement, il y a un renforcement et il y a un collectif qui est extrêmement fort, qui se développe par rapport à ça, avec une solidarité extrême entre toutes les personnes qui se disent « Bah, finalement, on est réellement dans cette adelphité-là. Il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi, même si ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a autant d'identités trans que de personnes trans, et il y a autant d'expériences personnelles d'IVG qu'il y a de personnes qui ont fait un IVG, y compris même la même personne va avoir autant d'expériences que d'IVG qui ont pu avoir eu lieu. Donc, c'est important de comprendre ça, d'entendre ça, et ça devrait être la règle de tous les médecins sans exception. Malheureusement, on en est loin. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a des jeunes générations qui arrivent, qui sont beaucoup plus féminines, j'espère féministes aussi, mais beaucoup plus féminines que les générations précédentes de médecins. Je crois que les chiffres, c'est 85% des personnes qui font des études de médecine sont des femmes aujourd'hui. Donc, on espère d'avoir plus une écoute, plus une réaction de qui sortent de cette idée. Je suis le mec sachant qui va vous dire comment les choses sont faites. Il faut bien avoir en tête que la France fait, c'est pas une exception absolue, mais je crois qu'on était plutôt précurseur pour le coup. Alors, je suis vraiment très très loin d'être chauvine, vraiment très très loin vu l'état du pays. Mais il y a cet enjeu-là sur la démocratie sanitaire qui existe, je crois, de mémoire depuis 2002 dans le Code de santé publique, qui dit que théoriquement, tout soin, sans exception, doit être fait avec le consentement libre et éclairé des personnes. C'est pas le cas partout dans le monde. Et en fait, c'est cette idée de dire, on doit partager. On doit partager en tant que médecin, je dois partager ce que ça va impliquer, le soin que je suis en train de faire. Et du coup, je dois aussi partager pour écouter ce que va me dire la personne en face, pour que savoir si la personne a bien pigé ce que ça va impliquer derrière et que potentiellement la personne a le droit de dire non à un soin, même si moi, en tant que sachante absolue, j'ai envie de l'imposer comme ça se fait normalement. Je parle de ça, c'est-à-dire même y compris un médecin qui va vous donner du Doliprane doit vous dire... Je vais vous donner du Doliprane, voilà ce que ça peut impliquer derrière, est-ce que vous êtes OK pour en prendre? Et c'est pas à nous de décortiquer les notices avec un charabia qu'on comprend pas forcément. Et ça serait bien que la médecine revienne à ça, mais ça veut dire aussi donner le temps aux médecins de pouvoir faire des anamnèses complètes et de réfléchir à la médecine de façon plus complète qu'on l'a réfléchi aujourd'hui.
Depuis le 16 décembre dernier, les sages-femmes peuvent pratiquer l'IVG instrumental sans la présence d'un médecin. Mais ça impose qu'il y ait au moins 3 médecins sur place, un qui puisse réaliser des embolisations artérielles, donc en gros le fait de pouvoir stopper une hémorragie. Or, c'est pas requis lorsque les médecins réalisent une IVG instrumentale ou un accouchement qui représente d'ailleurs plus de risques. Donc, ça c'est selon le décret du 16 décembre. Qu'est-ce que ça représente ce retour à la pratique par les sages-femmes, Bénédicte Paoli?
Alors, ce décret, évidemment, que c'est une catastrophe. Hein. Alors, il paraîtrait qu'il va être réécrit, voilà, parce que quand même, tout le monde a râlé. Les médecins militants ont râlé, les sages-femmes ont râlé, à juste titre. C'est pas normal qu'on demande plus de précautions pour une sage-femme que pour un médecin. Voilà. Nous, évidemment, qu'on est pour l'ouverture à plus de personnes qui puissent pratiquer les IVG instrumentales. Évidemment, plus il y aura d'offres et mieux ce sera. Enfin, là, pour le coup, aucun problème avec ça, bien sûr. Et on espère que le décret va être réécrit rapidement pour que les sages-femmes puissent réellement le faire. Parce que là, actuellement, c'est pas le cas. Hein. Sauf dans certains hôpitaux. Mais c'est un décret qui dit vous avez le droit, mais en fait, vous n'avez pas le droit de le faire.
La preuve que les luttes sont jamais terminées. Il faut toujours s'assurer de l'application d'une loi qui nous paraît intéressante jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit concrètement appliquée pour les personnes. Sinon, il y a toujours une capacité d'interprétation d'obstacles. Hein. Typiquement, c'est un obstacle supplémentaire qui est mis. Et ces obstacles-là, il y a plein de personnes qui essayent d'en mettre. Parce que quand on ne réussit pas à passer par la voie royale, ben on passe par la fenêtre. Et alors là, par la fenêtre, il y a beaucoup de personnes qui essayent de bloquer ces progrès-là.
Symboliquement, qu'est-ce que ça représenterait justement ce retour à la pratique de l'IVG instrumental par les sages-femmes? Est-ce que ça peut être un rappel un peu de ces années de militantisme du MLAC? Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Alors, au MLAC, il y avait plein de personnes qui n'étaient pas du tout soignantes. Hein. C'était pas que des soignants, hein. C'était pas que des médecins. Il y avait des cellules du MLAC, il n'y avait pas de soignants. Hein. Mais ce geste, les femmes, elles l'apprenaient, il était transmis et ça passait bien. Hein. Donc, c'est pas un retour, en fait. C'est plutôt une... tant mieux, c'est une ouverture vers d'autres professions médicales. Mais le MLAC, c'était les femmes entre elles qui se transmettaient le geste et qui avaient cette méthode Carman qui marchait très bien et les femmes avortées.
Est-ce que c'est pas aussi un moyen de donner plus de pouvoir à d'autres personnes que les médecins, par exemple, un peu pour revenir à nos discussions précédentes?
Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que disait Anaïs, c'était très important. En fait, ces accueils collectifs, ça permet aux personnes de retrouver le pouvoir sur elles-mêmes, en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'IVG médicamenteuse, par exemple, pendant je ne sais pas combien de temps, il fallait que la femme elle prenne le premier comprimé devant le médecin pour ensuite calculer comment elle prenait le deuxième comprimé. Bon. Nous, au planning, on n'a évidemment jamais fait ça. Enfin, normalement, j'espère qu'on n'a pas trop fait ça. En tout cas, là où je connais, on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on disait, ok, c'est dans la loi, mais vous repartez avec les médicaments et vous les prenez en fonction de votre planning. Voilà, c'est pas nous qui allons décider du bon moment de faire la fausse couche. C'est possible. Maintenant, c'est écrit, on a le droit de repartir avec les médicaments et les prendre quand on veut, mais ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça date après le confinement. Donc, vous voyez. Pareil, il y avait un délai, il n'y a plus de délai. Enfin, voilà. Nous, on milite pour une simplification et surtout pour que les personnes reprennent le pouvoir. Et le pouvoir, ça veut dire je fais mon IVG quand je peux ou quand je veux, en fonction de mon planning, en fonction de ma vie. J'ai le droit. De décider de plus le faire si j'ai pas envie de le faire. Enfin, vous voyez, c'est en fait voilà, on laisse le pouvoir aux personnes, c'est ça qui est important.
Ça, c'est vraiment un élément qui est assez essentiel, et j'y rajouterai une dimension qui est la question des dictats sociaux qui sont extrêmement forts et qui laissent entendre un certain positionnement, une certaine pratique, une certaine vision des choses, parce que la société nous dit que c'est comme ça qu'il faut réagir face à telle ou telle situation. Donc on a ces enjeux-là sur les enjeux de transidentité, il y a ces enjeux-là clairement sur les questions d'IVG où on va... absolument pousser à ce que ça puisse être dramatisé au maximum avec tous les enjeux que ça peut ramener derrière de cette dramatisation. Et on a la même dramatisation qui se fait sur les enjeux de transidentité où on va dire c'est dramatique, c'est en train de se passer. On a des parents qui arrivent, qui parlent du deuil de leur enfant, qui parlent de choses super trash quand ils ou elles ont entendu la transidentité de leur enfant. Et finalement, les personnes trans aussi projettent ça. Et en se disant, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Et par extension, est-ce que j'ai le droit de faire tel ou tel acte? Et donc c'est important aussi et c'est pour ça que le collectif permet d'en sortir, c'est-à-dire qu'on donne une autre norme collective que celle de la société. On donne une autre norme collective que celle qu'on va entendre dans le repas de famille, qu'on va entendre à la télé, qu'on va entendre à la radio, qu'on va entendre dans tel ou tel milieu, qu'on va entendre à la machine à café, qui est la règle collective des personnes concernées. Et ce qui finalement est beaucoup plus pertinente que la règle collective des moralisateurs ou des moralisatrices qu'on pourrait avoir par ailleurs. On a un enjeu qui est assez fort et on intervient nous sur les diplômes universitaires de transidentité. Il y a une médecin qui intervient sur les questions d'éthique médicale. Et la question d'éthique médicale autour des transidentités, le cœur finalement de son message, c'est de dire il faut faire attention d'un point de vue médical à ne jamais confondre éthique et morale. Et souvent, les éléments qui sont mis en avant pour s'opposer à plusieurs actes, qui nous concerne sur les transitions qui vont concerner les personnes qui veulent faire un IVG et énormément d'autres actes qui peuvent tourner autour de ça, c'est souvent la morale qui va primer sur l'éthique dans la façon d'appréhender les choses. Il faut qu'on sorte de ça et c'est grâce à ces luttes-là qu'on réussit à faire en sorte de sortir de cette vision-là d'une morale qui écraserait l'éthique et de plutôt rester sur l'éthique, la vraie éthique. Est-ce que ça fait du bien à la personne? Est-ce que ça améliore la vie de la personne? Est-ce que ça règle des sujets pour la personne? Parce que c'est seulement là où l'éthique médicale doit pouvoir se trouver, et non pas est-ce que ça correspond à telle ou telle norme morale ou telle ou telle mœurs qu'on pourrait avoir dans la société.
Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de Chantal Birman.
L'information est essentielle et le travail, non pas autour du choix, bien sûr autour du choix, mais surtout le vrai travail qu'il y a à faire dans l'accompagnement, c'est sur la partie, dans un choix, il y a une partie où on renonce à quelque chose. Eh bien, c'est là que le travail est à faire. Ce n'est pas tant sur la partie où on décide. C'est-à-dire, et c'est en ce sens que j'avais une petite différence avec le MLAC, dans ma pensée avec le MLAC, je pense. Mais à l'époque, je ne me le disais pas comme ça. Il faut aussi être honnête. C'est petit à petit, au fur et à mesure, que je me suis dit, c'est vrai quand même que j'avais une approche. Elle considérait beaucoup qu'avorter était une liberté, ce qui est archi vrai, hein, attention. Et que donc, voilà, il fallait soutenir les femmes dans leur choix de l'avortement, ce qui était impeccable, hein, impeccable et ce que je soutiens toujours. Mais pour les soutenir vraiment, pour qu'il n'y ait pas de retour, de regret, eh bien, il faut montrer, enfin, quelque part, leur montrer qu'elles sont en train de faire un choix. Elles le savent, hein, qu'elles font un choix. Et elles font le choix de l'avortement, c'est-à-dire d'une vie momentanément, là, maintenant, et pour dans les 9 mois qui viennent, sans enfant. Leur poser la question, à votre avis, comment ça se fait que cette grossesse est arrivée ? Et ensuite, leur dire, qu'est-ce qui vous a fait décider de ce choix de l'avortement, si vous l'avez décidé, c'est que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Attention, il faut faire très attention de ne pas entraîner de culpabilité. Mais en même temps, la décision, à ce moment-là de la vie, comme je disais, qu'au bout de 9 mois, il n'y ait pas un bébé qui arrive. C'est bien ça, la décision, on est bien clair. Voilà.
Qu'est-ce qui vous vient en écoutant ça, Bénédicte Paoli ?
Bon, Chantal Birman, elle a fait plein de choses et moi j'ai beaucoup de respect pour elle, hein, y a aucun problème. Bon, nous on n'est pas trop quand même, on est moins là-dedans dans interroger. C'est-à-dire qu'il y a des femmes pour qui c'est hyper simple, hein, l'avortement. C'est-à-dire, elles prennent rendez-vous sur Doctolib, elles font un avortement et voilà. Et elles n'ont pas envie d'en parler. Et c'est leur choix et c'est leur droit et chacun d'entre nous fait des choix dans la vie et puis il y en a pour qui ça va être plus compliqué, la décision va être difficile et elles ont envie d'en parler et il faut trouver des lieux d'accueil pour qu'elles puissent en parler. Mais vous voyez, il n'y a pas de systématisation de « Oh là, l'avortement, il faut toujours en parler ». Non, nous on n'est pas là-dedans. Voilà. Pour certaines personnes, c'est un choix très simple. Pour d'autres, c'est un choix beaucoup plus compliqué. Mais voilà, c'est à chacun, chacune de savoir ce qu'il en est pour soi. On n'est pas du tout dans... avant, il y avait un entretien psychosocial fait par des CCF qui était obligatoire, hein, il y a quelques années. Il a été supprimé parce qu'il y a des femmes qui... Non, elles n'ont pas besoin d'entretien, quoi. Elles veulent juste interrompre cette grossesse. Et puis, si un jour elles ont envie d'en parler, de toute façon, elles peuvent toujours revenir en parler si un jour elles décident de le faire. Mais on n'est pas du tout pour psychologiser l'avortement, pas du tout, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est un choix qui peut être très simple, qui peut être compliqué. Et même quand il est compliqué, c'est pas pour ça qu'on a envie d'en parler, hein. Voilà. Donc en fait, c'est la liberté de chacun, de chacune, de savoir ce qu'elle veut en faire et ce qu'elle veut dire et qui elle veut voir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle puisse être accueillie simplement par un professionnel, et ne pas en parler si elle n'a pas envie d'en parler, et avorter simplement. Voilà. Pour nous, c'est ça. Hein.
On voit du coup dans cet extrait-là le poids de cette morale sociale qui dit « attention, c'est quand même compliqué, c'est quand même dur, c'est quand même... » Et puis on repousse finalement les arguments de toutes les personnes qui se sont posées et qui continuent à s'y opposer avec cette idée « vous allez retirer la vie d'un enfant ». Enfin, c'est les éléments qui sous-tendent dessus. Et qui, encore une fois, sont en parallélisme absolu sur nos enjeux. Est-ce que tu as bien réfléchi ? Il faut absolument que tu ailles voir un psychiatre avant, mais il faut que tu explores. J'ai entendu un peu des termes qui sont comme ça. Hein. On demande maintenant, et c'est d'ailleurs ce que souhaitent faire les parlementaires de droite et d'extrême droite, c'est explorer au maximum le genre d'assignation, donc explorer au maximum la vie avec cet enfant pour essayer de provoquer une sorte de regret dans un acte. Alors qu'en réalité, la vraie base, elle est de donner l'information complète. Et la personne est suffisamment adulte pour, avec les informations claires, non biaisées, ce qui est toujours un peu compliqué, mais avoir des informations complètes, non biaisées, se dire je prends la décision pour moi, non pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas, réfléchir à la façon de guider une décision, mais plutôt la question d'informer, de donner les informations pour que la décision puisse être prise comme il faut. On a beaucoup de médecins sur beaucoup d'enjeux qui se sentent dépositaires, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec l'Académie de médecine, avec le Conseil de l'Ordre des médecins, enfin avec certains conseils de l'Ordre des médecins, où on a un peu cette idée-là de c'est nous qui allons dire comment la société doit être. Et comment les gens doivent vivre. Et la plupart du temps, d'ailleurs, l'Académie de médecine, je crois, il y a 150 personnes, dont 17 femmes, je crois. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, on imagine tout à fait le progressisme de ces personnes-là. Et en fait, c'est plus cette idée de dire il ne faut pas guider la façon dont les gens doivent être. Il faut informer les personnes. Et les personnes, il faut leur faire confiance sur le fait que les choix individuels, les décisions individuelles sont prises à partir du moment où elles sont prises en toute connaissance de cause. Donc, assurons-nous que les choses se fassent en toute connaissance de cause. Donner de l'information pour que la personne puisse prendre sa décision ou demander à la personne qu'elle réfléchisse pour que la décision soit prise. Au final, on dit la même chose, hein, c'est que la décision revient à la personne. Sauf que insister sur l'information, ce n'est pas la même chose que insister sur la réflexion. Insister sur la réflexion, c'est potentiellement faire culpabiliser. Insister sur l'information, c'est est-ce que tu as bien toutes les informations et tu vas prendre ta décision avec toutes ces informations. Sous-entendu, si je ne te dis pas de réfléchir, tu ne vas pas réfléchir si je te donne les informations. Ce qui finalement est une infantilisation qui est très fréquente dans le domaine médical et où on te dit tu n'es pas capable de prendre une décision parce que tu n'as pas tous les éléments. Et puis même si on te les donne, de toute manière, tu n'auras pas la capacité de le faire. C'est bon, j'ai fait 10 ans d'études, je sais mieux que toi. Donc, je vais prendre la décision à ta place. Et donc, je vais te demander simplement de réfléchir tant que tu ne donneras pas la décision qui correspond à ce que moi, je pense être nécessaire pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut inverser le point de vue. On arrive à la même chose. Et nous, le débat qu'on a avec les personnes qui s'opposent à la transidentité des mineurs trans, typiquement, ils s'opposent à la transidentité des mineurs trans en disant il faut interdire les bloqueurs de puberté. Nous, on dit il faut donner des bloqueurs de puberté parce que les bloqueurs de puberté permettent justement de donner le temps de réfléchir, de s'installer dans son genre, de se positionner dans son genre et puis de dire je continue ou je continue pas. Ça sert à ça, les bloqueurs. Hein. Ce n'est pas pour affirmer un genre, c'est au contraire pour suspendre le genre. Ces personnes-là vont inverser le truc en disant non, avant de donner le bloqueur, c'est-à-dire avant de donner la capacité de réfléchir, on va déjà forcer d'un côté absolument et on pousse absolument de ce côté-ci. Et après, plus on aura poussé, plus ce sera compliqué de revenir en arrière. Et c'est les mêmes enjeux sur l'IVG. Plus on pousse à la réflexion, plus on va arriver aux limites en matière de délai et plus la décision va se faire dans une sorte d'urgence et pas forcément posée comme il faut. Et c'est pour ça que les combats sont essentiels sur laisser la capacité de réfléchir, laisser la capacité de prendre le temps si les personnes ont besoin de prendre ce temps-là, mais ne pas imposer un temps ni court ni long à des personnes si ce temps-là n'est pas nécessaire pour la personne.
Moi, ouais, tout à fait, oui, on est d'accord. Hein. De toute façon, c'est les mêmes objectifs. Et nous, on est vraiment pour que, au planning, l'IVG, ça fait partie de la vie des femmes. Hein. C'est pas un soin à part. Donc, ça fait partie de la santé sexuelle. Donc, voilà, une personne qui vient pour interrompre sa grossesse, elle interrompt sa grossesse simplement si elle le désire. On a plein de... Il y a un vrai tabou encore sur l'avortement, malgré tout. Hein. C'est-à-dire que les personnes n'en parlent pas, les femmes n'en parlent pas. Quand on a ces accueils collectifs et où enfin elles peuvent en parler, et où parfois, ça y est, elles ont pu en parler à leur mère qui elle-même avait avorté, mais en fait, elle n'en avait jamais parlé parce qu'elle n'osait pas en parler. C'est la première fois de sa vie qu'elle en parle parce que sa fille vient la voir en lui parlant d'une interruption. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est très libérateur la parole. Parler entre nous, en fait, mais pas obliger une réflexion sur un choix qui est fait parfois de manière très très simple. Il y a plein de stéréotypes, c'est-à-dire que, alors, les très jeunes femmes, il ne faut pas qu'elles gardent leur grossesse. Par contre, les femmes qui ont 35-40 ans, oh là là, attention, parce que si vous avortez, peut-être que vous aurez plus de chance d'avoir un enfant. Enfin voilà, c'est vraiment les stéréotypes. Où il se trouve qu'il y a des jeunes femmes qui veulent garder les grossesses, hein, et c'est leur droit, c'est leur choix. Et puis, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, ou qui, à 40 ans, considèrent que ce n'est pas le moment. Enfin, vous voyez, en fait, il y a vraiment un truc de... Il faudrait que... Enfin, c'est ce que tu dis, hein, Anaïs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vision de ce qui serait bien, ce qui serait moins bien pour une personne qui a une grossesse, le bon moment de l'interrompre ou pas le bon moment de l'interrompre. Et puis, il y a aussi une sorte de fantasme sur l'IVG où on pense que c'est que des très jeunes femmes qui avortent. Alors qu'en fait, les personnes qui avortent, elles ont entre 20 et 35 ans. Voilà. C'est souvent des femmes qui sont sous contraception. 80%. Voilà. Donc c'est quelque chose qui arrive à... C'est ni chez les personnes mineures, enfin ça arrive, mais c'est pas du tout la majorité, hein, c'est les femmes entre 20 et 35 ans qui ont une sexualité épanouie, c'est normal qu'elles aient plus de risques de grossesse, donc c'est normal qu'elles aient plus de grossesses non désirées.
En fait, de dire qu'une femme peut se dire « j'ai pas envie d'avoir un enfant », et même jamais, et je me retrouve dans une situation je vais faire une interruption parce que j'ai juste pas envie d'avoir un enfant », ramène tout l'élément de la société qui dit que finalement, si t'as pas d'enfant, t'es pas une femme complètement. Et alors, c'est un truc qui, pour le coup, moi, je me suis pris un peu en pleine gueule parce que, en tant que femme trans, j'ai fait ma transition à 48 ans, donc un âge où si j'avais été une femme, si c'est pas forcément un projet parental que j'aurais engagé à ce moment-là. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit « Ah, t'es une femme, donc tu vas avoir des enfants. » Et on me projette ça de façon extrêmement forte, y compris en ayant fait une transition à 50 ans, quoi. Donc en fait, on a cette idée-là qu'une femme n'est jamais complètement une femme, et si je veux être légitime en tant que femme, il faut que j'ai des enfants, et si j'ai pas d'enfants, je suis pas réellement légitime en tant que femme. Donc c'est un peu cet élément qui est donné par la société de façon très forte, et qui influe, quand je disais qu'on a une morale sociale qui va s'imposer sur un certain nombre de décisions, et que c'est pour ça que c'est intéressant de sortir de ces milieux-là pour essayer de voir une autre morale sociale, en tout cas un peu différente, pour pouvoir changer la façon dont on appréhende les choses, et de se dire qu'à un moment, y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, et c'est cool, et c'est même vachement bien, et je ne suis pas forcément une fervente du réarmement démographique, et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on puisse se dire, on peut aussi avoir une version raisonnée de l'être humain qui n'est pas juste une machine à faire des enfants, et dans la machine à faire des enfants, que la femme soit réduite exclusivement à son statut de, je vais prendre le terme, de pondeuse, parce que c'est comme ça qu'on est projeté en tant que femme dans la société, c'est-à-dire que si tu n'as fait pas un enfant, tu n'es pas complètement une femme, tu ne seras pas complètement aboutie, tu ne seras pas complètement épanouie en tant que femme, et tu verras tout ce qu'on aura. Il y a des choses extraordinaires qui sont à prendre en compte, et moi je les utilise régulièrement dans les interventions, en particulier sur les questions de genre. Quand on parle du genre en tant que construction sociale, les gens disent « Ah oui, c'est une construction sociale, c'est-à-dire que c'est un truc qui n'existe pas ». Et on leur donne un autre exemple de construction sociale qui est le côté de l'instinct maternel. L'instinct maternel, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites, il n'y a pas forcément très très longtemps, qui montrent que l'instinct maternel n'existe pas. Il n'existe que parce qu'on positionne la femme dans un positionnement de care, de s'occuper de son enfant, et il faut absolument de s'occuper de son enfant, et ça libère un certain nombre d'hormones du plaisir, qui fait qu'il y a une sorte d'addiction qui se fait à ça et qui entraîne les éléments. Mais un homme pourrait être exactement, et d'ailleurs certains le sont, dans la même logique de se dire « j'ai le même instinct vis-à-vis de mon enfant, mais qui est créé par le fait de s'occuper de quelqu'un ». Je n'ai pas d'ailleurs son enfant avec le lien qu'il peut y avoir dessus. Donc c'est très intéressant de se rendre compte qu'on a des constructions sociales, mais qui sont tellement admises comme étant finalement un élément naturel. Ben non, mais c'est normal, une femme, ça doit s'occuper de son enfant. Non, c'est une construction sociale qu'une femme s'occupe de son enfant. Il faut juste en prendre conscience. Puis c'est très bien qu'il y ait des femmes qui s'occupent de leur enfant, qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui s'occupent de leur enfant, qu'on laisse les personnes, hommes ou femmes, qui veulent avoir des enfants de pouvoir en avoir, mais qu'on laisse aussi les personnes, hommes ou femmes, ou personnes non binaires, d'ailleurs pour avoir des enfants, ou personnes non binaires pour ne pas en avoir, ne pas avoir d'enfants dans la société, et d'être parfaitement intégrés dans la société sans qu'il y ait d'enjeu.
Anaïs Perrin-Prével de l'association Outrance et Bénédicte Paoli du Planning Familial, merci d'être venue avec nous en studio aujourd'hui.
Merci de l'invitation. Merci.
Auditeurs, auditrices, pour approfondir encore plus le sujet, à cette émission s'ajoute un reportage dans lequel nous aborderons les difficultés d'accès à l'avortement, notamment en Ile-de-France. Pensez les luttes, c'est une fois par mois. En attendant, retrouvez-nous sur radioparleur.net et sur Instagram @radioparleur. À bientôt.